Allez, Bac FM, il est 19h, émission spéciale consacrée aux journées européennes du patrimoine qui ont lieu ce week-end. Plusieurs entretiens sont à venir dans cette émission et on commence avec Jacques Mansuy, directeur de la Camosine. Bonjour Jacques Mansuy.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la Camosine.
Oui, tout à fait, j'y suis arrivé il y a 4 ans.
Et c'est quoi la Camosine alors?
La Camosine, c'est la Caisse pour les monuments et les sites de la Nièvre. C'est une association qui a toujours besoin d'être présentée, même si elle a fêté son 50e anniversaire l'année dernière, puisqu'elle a été créée en 1971 par un préfet de la Nièvre.
Jacques Gandin.
Jacques Gandin, tout à fait.
Alors, il y a quand même un point important à dire, c'est qu'elle est reconnue d'utilité publique quand même depuis 1977.
Oui, c'était important pour la Camosine, puisque ça ouvrait droit, on va dire fiscalement, à certains avantages. Mais surtout, c'était une reconnaissance de la part des services de l'État de l'action qu'elle menait déjà depuis 6 ans, puisque c'était 6 ans à peine après sa création. Et la Camosine s'inscrit depuis cette reconnaissance d'utilité publique. Elle s'inscrit, ou en tout cas, elle inscrit son action dans les pas de ses fondateurs.
Et l'importance qu'elle a pour le patrimoine nivernais, mais également la contribution qu'elle a. Est-ce qu'elle contribue financièrement à aider des communes, à aider des associations aussi qui participent à côté également au même objectif que vous, qui est au final la préservation, la restauration du patrimoine?
Alors c'est sa mission première. La Camosine est une association nivernaise, c'est donc la Caisse pour les monuments et les sites de la Nièvre. C'est très important, c'est un ovni national, il n'y a pas d'autre association de ce type en France. Et sa première mission, c'est d'œuvrer à la préservation du patrimoine. Pour cela, on a plusieurs modalités d'action. La première, elle est de conseiller tout particulier, tout professionnel, tout adhérent, qu'il soit une collectivité, aussi une commune.
Au-delà d'un aspect économique, il y a aussi juste des conseils.
Bien sûr, la restauration commence par des conseils. Les conseils techniques, la Camosine oriente vers les conseils techniques en travaillant avec des partenaires comme le CAUE, le Conseil en architecture, urbanisme et environnement, en travaillant évidemment avec l'architecte des bâtiments de France au sein de l'UDAP de la Nièvre. Mais la Camosine a aussi un rôle important en conseil en financement, c'est-à-dire qu'elle va aider les collectivités à chercher les meilleurs financements pour aboutir à son projet, enfin pour le mettre en œuvre, sans qu'il y ait de reste à charge trop important pour la commune, puisque comme vous le savez, les restaurations aujourd'hui sont extrêmement coûteuses, surtout lorsqu'on travaille sur une église qui est l'église est au centre du village et elle est le patrimoine le plus important en règle générale de la commune.
Est-ce qu'elle travaille avec certains organismes?
Bien sûr, le travail de la Camosine aujourd'hui se conçoit pas isolément d'autres structures. Donc il y a à la fois des structures publiques, donc on travaille beaucoup avec la DRAC, auprès desquelles on va chercher des conseils et des financements, et puis donc il y a aussi la région qui finance, il y a le département via certains dispositifs, et puis donc aussi quelques collectivités type communauté de communes qui financent, mais aussi il y a aussi des partenaires privés, et c'est là que la Camosine a tout son intérêt, c'est qu'on connaît très bien tous les financements possibles et tous les partenaires privés avec qui on peut travailler, type la Fondation du patrimoine, qui est un acteur important, la sauvegarde de l'art français qui travaille aussi avec nous. Voilà, l'idée c'est que la Camosine elle mette à profit de tous le réseau qu'elle a su tisser en 50 ans. Aujourd'hui, la Camosine soutient à peu près financièrement une vingtaine de projets chaque année pour environ 35 000 euros, qui correspond aux contributions des communes, puisque nous aidons essentiellement les communes, financièrement j'entends, nous aidons essentiellement les communes à réaliser leur projet de restauration.
Des aides financières, des conseils, et puis c'est également une revue trimestrielle sur plusieurs thèmes. Alors ça peut aller de la géologie nivernaise à l'histoire du Morvan, ou même de la Nationale 7. L'idée c'est d'aborder des thèmes toujours très différents, avec un seul point commun, c'est la Nièvre, mais des thèmes relativement différents les uns des autres.
Oui, c'est d'essayer de dresser par touche un portrait de la Nièvre d'un point de vue de son patrimoine culturel. La publication est importante. Elle est le complément de l'action directe qu'on mène sur le terrain, puisque sans connaissance du patrimoine, on peut pas le sauver, on peut pas le restaurer, on peut pas le préserver si on ne le connaît pas. Et donc le connaître, c'est aussi diffuser auprès des habitants de la Nièvre et bien au-delà, c'est diffuser en fait toutes les richesses de la Nièvre, c'est de participer à la reconnaissance de la richesse du patrimoine de la Nièvre et donc d'une certaine façon de son attractivité. On est fiers d'être nivernais. Il faut jamais l'oublier.
Et encore une fois, d'apporter une marque, un souvenir aussi de ce qui s'est fait sur du papier, d'avoir un souvenir comme on pourrait appeler ça, un objet même.
C'est une revue, alors nous en sommes au 185e numéro, il est diffusé dans toutes les librairies, dans une cinquantaine de dépôts dans la Nièvre. Évidemment, il est adressé à tous nos adhérents, et pour de nombreux adhérents qui ne sont pas dans la Nièvre, c'est leur lien avec la Nièvre, cette revue-là, c'est le lien de la diaspora nivernaise avec la Nièvre au niveau du patrimoine. Et puis, c'est la contribution pour nous d'aller aussi mettre en exergue des pépites du patrimoine qui restent assez mal connues ou des thématiques qui ne seraient pas abordées parce qu'elles ne sont pas évidentes. On a eu la chance de travailler avec un académicien de l'Académie française, Michel Zinck, sur le patrimoine littéraire nivernais au Moyen-Âge. Donc, ce sont des sujets qui sont très pointu, mais dont la Camosine doit se saisir et qu'elle a, qu'elle doit mettre en valeur.
Justement, le patrimoine, il n'est pas que sur des monuments. Il y a aussi des patrimoines. Il y a un patrimoine de paysages. Il y a un patrimoine. Enfin, ça englobe beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on retrouve dans Camosine, les annales des pays nivernais monumentales. C'est le titre de l'édition numéro 185. Sorti en août 1971-2021, 50 ans de protection du patrimoine nivernais. Est-ce qu'on peut appeler ça comme un recueil des restaurations effectuées dans la Nièvre au cours des années ?
Oui, un recueil et bien plus, c'était aussi l'occasion de s'interroger sur l'évolution du patrimoine dans la Nièvre, évidemment, mais aussi de façon plus générale, puisque la Nièvre s'inscrit dans une tradition française. En 50 ans, le patrimoine a énormément évolué. Lorsque la Camosine s'est créée, lorsqu'on pensait préservation du patrimoine, on pensait château, on pensait église, et on pensait Moyen-Âge, on pensait époque gothique, évidemment, époque romane, on pensait époque classique. Mais un certain nombre d'éléments du patrimoine, enfin d'éléments bâtis, n'étaient pas intégrés au patrimoine. Il y a des notions qui n'étaient pas du tout prises en compte. Vous avez parlé du paysage.
Industriel aussi, par exemple, le patrimoine industriel.
Exactement, le patrimoine industriel, le patrimoine du XXe siècle, évidemment. Et aujourd'hui, on a une reconnaissance progressive, on a une intégration progressive de différents types de patrimoine. Et pour moi, il me semblait important de s'interroger à l'occasion des 50 ans de la Camosine, puisque vous avez relevé effectivement que c'est 1971-2021, donc ça correspond au cinquantenaire de la Camosine, c'était de s'interroger sur qu'est-ce qui fait aujourd'hui patrimoine, qu'est-ce qui est aujourd'hui remarquable et qu'est-ce qui est remarquable et protégé par la Caisse régionale des monuments et historiques avec laquelle nous avons travaillé. Donc c'est une entité qui dépend de la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté.
Et c'est en lisant ce recueil, ce livret, qu'on peut remarquer qu'il y a beaucoup d'autres thématiques qui rentrent en compte. On va les aborder tout à l'heure. Mais en préambule de ce numéro, le président de la Camosine, Jean-Louis Bayret, écrit « Notre pays, comme beaucoup d'autres, a enchaîné des épisodes terribles au fil des siècles, guerre, vandalisme, révolutionnaire et destruction méthodique. Est-ce que l'objectif, aussi, il est là, c'est de rénover des bâtiments historiques, tout en gardant la trace que l'histoire leur a laissée ? C'est de les rénover, mais aussi de montrer le passage du temps sur ces bâtiments-là.
Complètement. L'optique de la restauration du patrimoine a beaucoup évolué. Au 19e, avec Viollet-le-Duc, on n'hésitait pas à reconstruire un bâtiment, un édifice, dans l'état qu'il n'avait peut-être jamais eu. Donc, on pouvait interpréter, extrapoler, et on en arrive à des réalisations qui sont extraordinaires, mais qui montrent un état qui n'a peut-être jamais existé. Depuis les années 60, on va travailler beaucoup plus sur la cristallisation ou en tout cas la conservation des éléments en essayant d'intégrer l'ensemble de l'histoire du bâtiment puisque le patrimoine évolue. Ce n'est pas un état figé, mais il évolue. Un des exemples est celui effectivement de la Charité dont on n'a jamais envisagé de reconstruire la nef détruite. C'est un témoignage de l'histoire lié aux guerres de religion, lié donc aux fameuse destruction dont parle Jean-Louis Balleret notamment.
L'église de Cluny aussi, par exemple, qui a été démontée à la dynamite, c'était pour revendre les pierres à l'époque, par exemple, aussi.
Oui, démontée, c'est un joli mot, mais qui a été effectivement détruite à la dynamite. Et on a dans le département de la Nièvre beaucoup d'autres éléments qui ont disparu. Alors, pas obligatoirement par une action aussi violente, mais aussi par une négligence. À la Révolution, un certain nombre d'églises ont été désaffectées et dans le meilleur des cas, elles ont pu retrouver une affectation en servant de grange. Donc finalement, ça a sauvé le fait de devenir un patrimoine agricole, ça a sauvé beaucoup d'édifices religieux, mais un certain nombre ont aussi disparu. Et puis, on continue aujourd'hui encore à perdre du patrimoine, protégé ou pas protégé. Un des exemples qui est mentionné dans l'ouvrage, c'est un élément de papeterie de Corvol-l'Orgueilleux qui était un bâtiment du XVIIIe siècle qui a été protégé et puis la protection a fini par être levée parce qu'on était dans un site industriel et la crainte était que la protection empêche le développement de l'activité et donc de l'emploi. Et vous voyez que le patrimoine, il n'est pas hors du champ humain, il est tout le temps, parfois, il est plongé aussi dans une réalité où il ne doit pas être en contradiction avec des objectifs économiques.
Oui, il suit aussi les mouvements et tout ce qui s'est passé au fil des années, que ce soit socialement et que ce soit aussi au-delà du travail dans la Nièvre. Et c'est le cas en France en général, de toute façon, mais...
C'est le cas en France. Il n'est pas isolé. Aujourd'hui, le mouvement qui se fait jour, c'est comment est-ce qu'on peut réadapter le patrimoine existant qui a perdu sa vocation. Je pense aux forges de Guérigny, notamment, où on a des éléments extraordinaires du patrimoine industriel qui ont failli disparaître au début des années 70. Et c'est grâce à une association qui est les Amis du Vieux Guérigny que cet ensemble magistral a pu être sauvé. Et puis, il y a évidemment l'investissement de la commune de Guérigny. Aujourd'hui, la question est de se dire, lorsqu'on veut sauver un patrimoine, lorsqu'il a perdu son affectation, il faut lui retrouver une nouvelle vie, une nouvelle fonction. Et ça, c'est indispensable. Vous pouvez investir ce que vous voulez dans du patrimoine. Si vous n'êtes pas capable de réaffecter et de lui redonner un nouvel usage, ce que vous faites est malheureusement à court terme, ça va fonctionner, mais à long terme, ça ne fonctionnera pas.
Et ça passe par de nouvelles méthodologies aussi, justement, patrimoine religieux, industriel, naturel. Il y a un autre aspect qui revient souvent, c'est l'imagerie, l'analyse scientifique. Ça revient sur certains exemples de ce livret. C'est des évolutions qui sont importantes dans la restauration, dans la protection du patrimoine aussi, des aspects scientifiques, des restitutions virtuelles par exemple.
Alors, la science et le patrimoine ne sont pas antinomiques. La restauration du patrimoine, elle se nourrit de toutes les avancées scientifiques qui peuvent contribuer à une meilleure connaissance du bâti.
Et elle bénéficie de cette avancée aussi.
Exactement, puisque avec les restitutions virtuelles, donc on va pouvoir créer des modèles virtuels de ces monuments, mieux analyser les désagréments structurels, et puis surtout on va pouvoir avoir des modèles virtuels qu'on va exploiter d'un point de vue de médiation, donc là, des reconstitutions virtuelles, montrer le bâtiment à plusieurs époques de sa vie, avec ses évolutions, ses transformations, ce qui permet pour le grand public par exemple de comprendre visuellement beaucoup mieux qu'un long discours comment évolue une église, un château, un ensemble industriel. Voilà. Ces technologies ont un coût, évidemment. Mais ça montre aussi, surtout, là je parlais en termes de médiation, mais les professionnels eux-mêmes s'en servent, les charpentiers, les maçons, les tailleurs de pierre, et ces entreprises utilisent de plus en plus les modèles virtuels aussi pour travailler sur le cubage des pièces à remplacer. Et ça montre aussi, notamment aux élèves ou aux jeunes qui veulent se diriger vers les métiers du patrimoine, qu'un métier, travailler comme charpentier, travailler comme couvreur, travailler, c'est pas un métier passéiste où on reste avec les outils du Moyen-Âge. Ça, c'est pas faux. On peut le faire. On doit le faire parce qu'il y a un geste qui se transmet. Mais ça montre aussi que les nouvelles technologies, elles s'intègrent directement dans le patrimoine et devenir compagnon, devenir un ouvrier qualifié sur des chantiers du patrimoine, c'est aussi intégrer les nouvelles technologies. Voilà. Ça n'est pas un métier du passé. C'est un métier tourné vers l'avenir de restaurer le patrimoine.
Justement, l'avenir aussi dans la Nièvre, c'est le tourisme. Est-ce que le patrimoine est l'élément premier dans le tourisme d'un département comme la Nièvre ?
Égoïstement, je vais répondre oui, bien évidemment. Il est un des éléments fondateurs, puisque le patrimoine va qualifier le paysage. Il va vous aider à vous situer dans un paysage, dans l'histoire du territoire que vous traversez. Il va créer des points d'attraction de ce territoire. Imaginerait-on Nevers sans le Palais Ducal, sans la cathédrale et sans Saint-Étienne ? On parlera peut-être de la charité également avec cette extraordinaire église et cet ensemble. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que On a des locomotives du patrimoine qui sont très visibles, qui sont des monuments extraordinaires connus de tous. Aujourd'hui, la difficulté, c'est de se rendre compte que ce qui fait la valeur du patrimoine nivernais et la valeur des paysages nivernais, c'est une multitude d'éléments patrimoniaux diffus qui sont parfois peu visibles et dont on va se rendre compte de la valeur lors de leur disparition. Et une grande partie du patrimoine nivernais n'est pas protégée. On a une reconnaissance via la protection au titre des monuments historiques d'éléments importants. Mais il faut avoir en tête que nous tous, on est peut-être propriétaire d'une maison ancienne, d'une grange, d'une maison dans un village, et on est finalement dépositaire de ce patrimoine. Parce que ce qui fait la richesse aussi du patrimoine nivernais, c'est la globalité, c'est l'harmonie qui se dégage de nos centres-bourgs. Et on est tous responsables de sa transmission et de son entretien. Et il faut faire attention à ne pas se cacher en se disant ce qui est patrimoine, c'est l'église reconnue, classée au titre des monuments historiques. Ce qui est patrimoine, c'est le grand château. Ce qui est patrimoine, non. Enfin, oui et non. Le patrimoine, c'est aussi l'ensemble des petits éléments. C'est le petit lavoir auquel on prête plus trop attention et dont le toit s'effondre. Et on va se rendre compte de son intérêt lorsqu'il aura été comblé parce que personne n'y aura fait attention. C'est le calvaire qui est implanté à une patte d'oie au cœur de la campagne. C'est aussi le ruisseau qui relie deux moulins et ce ruisseau-là lorsqu'il est malheureusement ça a été le cas, ça l'est un peu moins aujourd'hui, mais lorsqu'il est reconditionné pour évacuer l'eau, il perd l'ensemble de son charme. Ce sont aussi les haies qui scandent le paysage, qui vont voilà, tout est patrimoine quasiment.
C'est toute marque du passé, aussi infime qu'elle soit, qui marque la vie du territoire.
Oui, et chacun de nous en est dépositaire et peut avoir une action dessus. Voilà, il ne faut pas avoir toujours cette impression que le patrimoine, c'est chez les autres, ce sont les grands éléments. Non, on est aussi responsable de ce petit patrimoine autour de chez nous.
Justement, s'il y avait un lieu que vous deviez nous conseiller?
Il y en aurait beaucoup dans la Nièvre. Alors, j'en retiens quelques-uns. Je pense au lavoir, un lavoir à Parigny-la-Rose, qui est un lavoir qui présente une charpente qu'on appelle à la Philibert de l'Orme. C'est une charpente non pas avec des grandes sections, des grandes poutres, des grands bois, mais justement des petits éléments de bois qui sont assemblés par des claveaux et qui permettent à la fois d'utiliser des bois de très courtes sections, donc avec une économie dans la construction. Et puis, comme ce sont des courtes longueurs, eh bien, on peut aussi donner à la charpente la forme caractéristique qu'on appelle en chapeau de gendarme ou en coque de bateau renversé. Donc voilà, ça c'est le petit lavoir de Parigny. Il y a à Chide quelques éléments remarquables, une église romane en partie détruite, qui est toujours conservée, l'église Saint-Maurice, et puis il y a aussi un édifice assez extraordinaire, un calvaire en haut d'une colline qui est patrimoine remarquable du XXe siècle, puisque c'est une espèce de pylône en béton armé. Et tout ça, vous voyez, vous avez du XIIe et du XXe siècle qui sont à quelques centaines de mètres d'écart. La Nièvre offre tout cela. On a un patrimoine qui couvre l'ensemble du champ historique. Et ça, c'est formidable.
Et bénéficie encore d'aide pour pouvoir réhabiliter, pour pouvoir rénover leur monument, et je pense notamment à la Charité.
La Charité est un exemple assez extraordinaire d'une ville qui s'est construite autour du prieuré. Le prieuré a structuré la ville, il a laissé sa marque architecturale, et puis le prieuré a failli disparaître par les destructions révolutionnaires, par le cloisonnement, le lotissement. Et la commune a aujourd'hui un projet de restauration. Sur le long terme, il a commencé il y a déjà une trentaine d'années, et ce projet, il ne peut pas être mené en quelques mandats, et surtout, il demande des financements extraordinaires. Et la Charité a eu la chance de recevoir le prix régional Berne au titre du loto du patrimoine, qui lui donne un coup d'accélérateur, ou en tout cas qui lui permet d'envisager plus sereinement une des tranches prévues des travaux qui vont porter, si je me souviens bien, sur la toiture de la priorale. L'aide du loto du patrimoine et l'énergie que déploie Stéphane Bern, ce sont un accélérateur, pas que pour la Nièvre, mais aussi pour l'ensemble du patrimoine français. Et c'est formidable qu'on ait cet investissement d'une personne et derrière des centaines de joueurs qui, finalement, allient leur envie de jouer et
leur petit plaisir
à la restauration du patrimoine. Je pense que les deux sont intimement liés. Ça, on ne joue peut-être pas de la même façon lorsqu'on joue au loto habituellement et au loto du patrimoine, parce qu'on sait que quelque part, on s'engage aussi dans une œuvre d'intérêt commun. Et c'est la charité cette année qui va profiter de cette manne.
Quand vous n'êtes pas dans la Nièvre et qu'on vous demande d'où vous venez, qu'est-ce que vous répondez ?
Je suis nantais d'origine, donc être au bord de la Loire, pour moi,
c'est une routine.
C'est une routine. C'est ce qui m'a fait venir dans la Nièvre, notamment, parce que la Loire, c'est ce grand fleuve royal que j'ai toujours admiré, auprès duquel j'ai toujours vécu, donc je m'y sens bien. Je ne sais pas si je dis que je suis d'ailleurs, parce que finalement, moi, je suis là où je veux poser mes valises et à poser ma patte et vivre avec passion aussi ce qui est mon métier. Donc, je suis dans la Nièvre et je suis de la Nièvre. Pas encore nivernais, parce que pas d'X génération de nivernais.
Mais on le devient au fil des années.
On le devient parce qu'on aime la Nièvre.
Quel endroit vous ne connaissez pas encore dans la Nièvre ? Quel endroit vous avez peut-être... Vous êtes allé le moins encore, où le patrimoine vous est un petit peu plus inconnu?
Certainement le Morvan. C'est vrai que la difficulté de la Nièvre, c'est que Nevers est absolument excentré. Il aurait fallu que Saint-Sauge soit la préfecture de la Nièvre.
Nous sommes de Nevers au Morvan, aux portes du Morvan, il y a une heure.
Avec cette caractéristique du Morvan qui est ensuite à cheval sur 4 départements. Donc il a trouvé dans le parc naturel régional une structure qui permet de rassembler les énergies, de travailler sur des projets communs en dépassant l'échelle départementale qui n'est pas adaptée. Voilà. Mais
qui est un très bon exemple de patrimoine naturel aussi, parce que au-delà de Bibracte, qui est quand même un monument, il y a aussi les Sétons, il y a aussi Pansière qui sont des lacs qui ont un vrai patrimoine naturel.
Alors, les Sétons, vous me tendez une perche extraordinaire. La direction départementale des territoires de la Nièvre a engagé cette année la restauration du barrage des Sétons, et elle a voulu y associer la Camosine pour travailler sur l'aspect patrimonial du barrage. Et donc, je suis allé à nombreuses reprises pour m'imprégner, pour travailler sur ce barrage. Et nous sortons un ouvrage dans quelques jours à l'occasion des Journées du patrimoine qui s'appelle « Les Sétons du barrage au lac ». Ça m'a semblé indispensable de retravailler sur l'histoire de ce barrage, parce que finalement, je me suis dit, derrière ce lac, il y a un barrage qui a été un peu oublié. On passait sur la digue, mais la digue, elle était elle-même entre l'eau et une canopée végétale derrière les arbres qui jaillissaient du côté aval. Et à l'occasion des travaux de restauration, le barrage est dégagé et on propose, nous, de s'intéresser à l'histoire du barrage. Ça a été une très belle aventure avec la direction départementale des territoires, puisque on a eu accès à une masse d'archives extraordinaires qui est toujours conservée dans les services de l'État. Et pour nous, du coup, on fait ce qu'on aime faire et on fait ce qu'on sait faire, c'est-à-dire mettre en place des actions de médiation par le livre, mais aussi par des ateliers. On va proposer aux écoliers autour du lac, enfin dans les communes environnantes, de découvrir le barrage à travers des ateliers qu'on va leur proposer en classe cette année. Voilà, donc la Camosine, là, met en œuvre le troisième volet de ces actions. On a parlé tout à l'heure des aides à la restauration du patrimoine, on a parlé de l'édition, donc notamment des annales, et ce que fait aussi la Camosine, c'est un travail de médiation auprès des publics, pas seulement les scolaires, mais c'est les scolaires, pour moi, c'est une...
Mais il y a un aspect pédagogique aussi.
Lorsque vous voulez intéresser quelqu'un à son patrimoine, est-ce que vous voulez faire vivre le patrimoine, est-ce que vous voulez le transmettre, il faut y intéresser les jeunes générations, ça c'est indispensable. Quelqu'un qui ne fait pas sien le patrimoine qui est autour de lui, vous pouvez le restaurer, il retombera en ruine. Si vous ne l'accaparez pas au bon sens du terme, si vous ne l'intégrez pas à votre vie quotidienne, le patrimoine meurt. Donc il faut absolument qu'on travaille, nous, avec les jeunes générations pour leur faire comprendre que le patrimoine qu'il y a autour de chez eux, c'est leur richesse et c'est à eux, même s'ils n'en sont pas fiscalement les propriétaires. Et donc, au Céton, ce week-end, nous accueillons au cours de 2 jours d'animation tous les visiteurs, les locaux qui voudront mieux connaître leur barrage. On y sera aussi avec l'Office du tourisme et aussi avec la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, qui travaille aussi sur ce barrage. Et qui a accompagné cette restauration.
1971-2021, 50 ans de protection du patrimoine nivernais, c'est ce qui fait l'objet de ce livret numéro 185 et tout ce qui est abordé par la Camusine qu'on peut retrouver aussi sur le site internet. C'est très détaillé, il y a beaucoup de choses à lire et beaucoup de choses à voir aussi, beaucoup d'images, il y a beaucoup de choses.
Bien sûr, vous pouvez tout retrouver sur le site camusine.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver en adhérant à l'association. Aujourd'hui, la Camusine compte à peu près 1500 adhérents. Nous avons toujours besoin d'adhérents.
Que ce soit privé ou public d'ailleurs.
Privé ou public, tout à fait. Il y a à peu près 250 communes et donc 1200 adhérents privés, individuels j'entends. Vous aimez le patrimoine nivernais, venez manifester cette envie en nous rejoignant et c'est une façon de contribuer à l'action de la Camusine et de continuer à être fier du patrimoine nivernais.
Merci Jacques Monsu.
Merci.
Boulevard Désert, emmène-moi, c'est ce qui arrive tout de suite sur Bac FM, et puis juste après, suite et fin de l'émission avec mes deux invités, Philippe Lemoine et Erwan Ramondin.
Suis comme un grain de sable perdu dans l'océan. J'ai perdu mon cartable, j'ai perdu mes parents. J'suis comme l'eau des courants, fatigue est ignorée. Si je coule dans le vent, si je fais que passer. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Si je m'envole un matin, je retourne à la terre. Je m'en vais et je viens. Je suis comme l'eau des fontaines, impuissant et lassé, poussé par ce système qui poursuit sans cesser. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. J'suis comme les autres en fait, je ne saurai jamais si je poursuis la quête, si j'ai laissé tomber. Comme empli d'espoir, ce matin je renais. Emmène-moi près du phare, allons jusqu'au rocher. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent.
Bonjour Philippe Lemoine.
Bonjour.
Cette année encore, de nombreux rendez-vous sont à retrouver à la Charité pour les Journées Européennes du Patrimoine. Visites, ateliers, animations, expos et rencontres sont à découvrir dans plusieurs lieux de la ville, à commencer par la Cité du Mont et notamment des visites du Prieuré.
Oui, comme je dis souvent, le patrimoine chez nous, c'est pas juste pendant les journées, c'est toute l'année. Donc c'est vrai qu'on est un site qui est ouvert toute l'année. Donc on se pose la question pour les journées du patrimoine, qu'est-ce qu'on va faire d'un peu particulier et d'un peu insolite. Et donc généralement on propose des visites ou des angles d'approche du bâtiment qui sont pas les plus habituels.
Alors il y a plusieurs visites possibles, hein. Il y en a le samedi et le dimanche.
Oui, il y a un programme de visites guidées, elles sont gratuites, sur réservation quand même auprès de l'office du tourisme, parce que si vous voulez être sûr de pouvoir le faire, vaut mieux réserver, mais bon, vous pouvez aussi venir directement sur place, et on va se concentrer le samedi et le dimanche, effectivement, sur des angles un peu particuliers. Peut-être on peut, voilà, le samedi, on va travailler comme on a travaillé tout l'été sur le bestiaire médiéval, c'est-à-dire toutes ces créatures réelles ou imaginaires qui ornent les murs de l'église. Et on se rend compte qu'avec la passion qu'ont les plus jeunes générations pour les monstres, pour les dragons et autres créatures...
Ça peut être un moment très ludique pour eux aussi, une manière d'apprendre...
Oui, ça parle beaucoup aux plus jeunes, exactement. Donc ça nous permet de faire rentrer les jeunes et la famille, parce que les parents aussi aiment bien les dragons. Tout le monde, en fait, aime bien les dragons. Ça permet comme ça de créer un lien entre le contemporain et l'ancien. Donc on fait une visite guidée en famille, il y en a une le samedi à 16h par exemple.
Et puis le 17h aussi, c'est suivi d'une... Puis, alors il y a une autre visite là, c'est sur la rénovation de l'église, il y aura un autre aussi événement qui va venir en lien avec cette rénovation d'église, mais là pour le coup c'est une visite de la rénovation de l'église, donc samedi à 17h.
Oui, tout à fait. C'est lié avec la mission Berne et l'auto du patrimoine, dont on va reparler tout à l'heure. Il y a des gros projets de travaux sur l'église, et là, c'est une façon pour Luc Jolivelle, qui suit ce projet pour la ville de la Charité, de vous expliquer un peu plus en détail de quoi il va s'agir des travaux de rénovation sur l'église. Donc ça, c'est également le samedi. Et puis le dimanche, on aura des visites qu'on appelle des visites flash. On en a fait tout l'été, des visites flash, des visites qui durent 35-45 minutes et qui permettent rapidement de découvrir, pour le coup, des coulisses du prieuré, c'est-à-dire des espaces qu'on n'a pas l'habitué de voir, descendre dans une cave qui n'est pas ouverte habituellement ou pousser une porte qui généralement est fermée. Voilà, ça, ce sera des visites qui auront lieu le dimanche à 10h, 11h et midi, trois départs différents pour le coup avoir une ouverture insolite sur le prieuré. Et puis on parlait des visites en famille, on fera également une visite en famille à 16h le dimanche pour une découverte un peu générale du prieuré qui soit accessible pour les grands mais aussi pour les petits.
Et puis beaucoup d'animations également qui sont en lien avec le programme de l'événement, le corps dans tous ses états. Alors on avait reçu Patricia Muller hein, sur BAC FM qui nous avait parlé de cet événement, de tout ce qui était possible de voir à cette occasion. Il y avait plusieurs ateliers, il y avait plusieurs expositions aussi.
Oui, c'est un programme qui est superbe. Hein. Il a ouvert depuis le 10 septembre, puisqu'effectivement, vu l'ampleur et l'ambition du projet, c'était dommage de l'ouvrir que pour les journées du patrimoine, c'est-à-dire sur le week-end du 17-18. Donc je peux vous en parler pour l'avoir vu. Puis on a travaillé avec Patricia au montage de ce projet depuis quelques mois. Mais en tout cas, au Bazar Café et au Prieuré, il y a énormément de choses, de très belles expos, un salon des éditeurs, et puis surtout plein d'ateliers. Il y a même des massages. Vous pouvez même vous faire masser tranquillement dans le cloître.
Le massage assis.
Exactement.
Le dimanche aussi, donc alors, d'autres activités. Un marché aux livres anciens qui est organisé Place des Pêcheurs. Et puis demain, une visite à une porte ouverte sur le chantier des remparts. Donc c'est par l'association Les Remparts. Alors ça, c'est des visites. Ce sont des ateliers qui sont disponibles depuis le début de l'été. C'est comme l'exposition à découvrir la forêt des Bertranges. Qui livre ses secrets. Il n'y a pas vraiment de changement par rapport à ce qui est déjà fait depuis le début de l'été.
Oui, il y a l'exposition qui est en église Saint-Pierre sur la forêt des Bertranges, organisée par les Amis de la Charité, qui est ouverte depuis le début de l'été pendant les journées du patrimoine. Ce sera ouvert le samedi et le dimanche toute la journée au lieu de n'être ouvert que l'après-midi. Les Remparts, ben, c'est un site qui est ouvert au public de toute façon, mais l'association qui gère les Remparts et qui est très très motivée, qui fait énormément de choses, fait de manière régulière, il y en a eu cet été, des chantiers de bénévoles, et ils sont entourés de plein de gens qui viennent leur donner un coup de main pour faire plein de choses. Il y a toujours plein de choses à faire pour s'occuper du patrimoine et des Remparts. Donc là, ils feront une visite ouverte ou un chantier ouvert qui vous permettra, si vous êtes intéressé, pour leur donner un coup de main, de passer les voir. Et puis le marché aux livres, il est connu des charitois et des bouquinistes, puisqu'il a lieu tous les troisièmes dimanches du mois, tous les ans, toute l'année. Et il aura lieu, alors il est annoncé place des pêcheurs, mais vu que la météo est entre deux eaux, nous, ils se rabattront, comme c'est le cas souvent pour eux, au prieuré, dans les salles capitulaires et salles mérimées.
Et c'est un comble d'être entre les deux eaux quand on est place des pêcheurs.
Exactement.
Et puis donc, l'événement de ce week-end, c'est la remise d'un prix. C'est la remise d'un prix pour le patrimoine, justement, avec l'action portée par Stéphane Bern.
Oui, c'est un moment qui est important. C'est une date qui marquera, je pense, l'histoire du patrimoine à la charité. Alors, c'est peut-être pas un événement grand public tel quel, puisque c'est la remise finalement d'un chèque au maire de la charité par la Fondation du patrimoine, la Française des Jeux et la mission, ce qu'on appelle la mission Stéphane Bern, qui a été créée il y a quelques années et qui a pour but de mettre le coup de projecteur sur des lieux patrimoniaux et de les aider. Et cette année, il y a un site qui est un site remarquable qui est sélectionné dans chaque région de France. Et cette année, pour la Bourgogne-Franche-Comté, le site remarquable qui a été sélectionné, c'est l'église Notre-Dame, donc l'église de la Charité, qui a bien besoin de soutien pour les nombreux travaux qui sont à y faire. Et ce loto du patrimoine, ça permet d'ajouter pas mal, se mettre beaucoup de beurre dans les épinards, puisqu'on est un chèque qui sera, on n'a pas encore le montant total, puisqu'il y a un loto, il y a une cagnotte qui augmente au fil des jours, mais on sera au-delà des 500 000 euros, et puis ça ouvre aussi la porte à toutes sortes de financements par ailleurs pour la ville. Donc c'est un moment important, et pour le marquer, il y aura une remise de ce chèque symbolique qui aura lieu samedi matin au chevet de l'église à 10h30.
Voilà, c'est à 10h30 au jardin des Bénédictins. Oui. Depuis tout à l'heure, il y a des phrases que je note. L'histoire du patrimoine de la charité. Le patrimoine, c'est pas juste à cette journée, c'est toute l'année. Est-ce que, au final, ce week-end, il est juste là pour montrer tout ce que vous mettez en œuvre durant l'année au niveau patrimonial de la charité?
Oui, il permet de mettre un coup de projecteur, non pas uniquement sur la Cité du Mont. En fait, la Cité du Mont, nous, on s'occupe de gérer le prieuré en tant que tel, mais on a également une autre casquette qui est de gérer le label Ville d'Art et d'Histoire. La Charité est une ville d'art et d'histoire. C'est un label que le ministère de la Culture donne à un certain nombre de villes. C'est une des plus petites, d'ailleurs, villes d'art et d'histoire en France. Et donc, notre souci à nous, c'est de montrer que le prieuré, d'abord, c'est pas que le patrimoine, c'est pas que le prieuré. Que c'est bien toute la ville et qu'il y a beaucoup beaucoup d'acteurs à la charité qui se mobilisent. Et comme les Journées du patrimoine, c'est un événement qui est connu nationalement et qui a un retentissement et qui attire vraiment du public, c'est une façon pour nous de terminer l'été, puisque je le rappelle, l'été n'est pas terminé, on en a encore jusqu'au 21 septembre, donc les Journées du patrimoine sont encore des journées d'été.
Et donc rendez-vous à partir donc de ce week-end à la charité pour les Journées du patrimoine. Merci Philippe Lemoine.
Merci à vous.
Erwan Ramondinck, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur des archives départementales de la Nièvre, qui ouvre ses portes au public à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. L'occasion pour le public de venir découvrir deux expositions. Et aussi, également, il y a la visite des locaux sur laquelle on va revenir. Avant de revenir, justement, sur ce que comportent ces expos, pour expliquer à nos auditeurs, c'est quoi les archives départementales de la Nièvre? Qu'est-ce que ça comporte?
Alors, les archives départementales de la Nièvre, en fait, sont un service du conseil départemental de la Nièvre. Et nous sommes chargés de la conservation des archives produites par les administrations de l'État et par l'administration du conseil départemental de la Nièvre. Nous avons aussi comme mission de collecter, de conserver les archives de certaines communes de la Nièvre et également ce qu'on appelle des archives privées, en fait, qui sont acquises par don, dépôt ou bien achat.
Alors, mais quel type d'archives, en fait, ça comporte? Quel type de documents? C'est des documents qui sont plus à but politique, qui sont plus à but...
Alors en fait, on conserve de tout comme document, c'est-à-dire que notre rôle, nous, c'est de conserver les documents qui reflètent l'activité des services administratifs, mais aussi d'instances plus politiques, hein, notamment au niveau du conseil départemental. Voilà, notre rôle, c'est vraiment de conserver les archives produites par les agents, hein, qui travaillent dans ces différentes administrations. Alors, on ne conserve pas tout. Hein. Une bonne partie, en fait, des documents sont éliminés au fur et à mesure. En fait, ces documents sont éliminés régulièrement au bout d'une certaine durée. Alors, en fonction des dossiers, en fonction des documents, en fonction des procédures administratives.
Et de l'importance aussi du document aussi.
Voilà, et aussi de l'importance du document, de l'importance historique que l'on souhaite donner à ce document. On va éliminer les documents après une certaine durée. Alors ça peut être des durées de 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans. Et on va aussi, pour notre bonne partie des documents, les conserver ici aux archives départementales de la Nièvre.
Ces journées européennes du patrimoine sont pour vous l'occasion d'ouvrir vos portes au public pour venir voir deux expos entre autres. Alors on va revenir sur ces expositions. Il y en a une qui s'appelle Le bois, richesse de la Nièvre et c'est en visite libre.
Oui, tout à fait. Alors nous avons souhaité pour cette en fait réouverture, hein, pour les journées européennes du patrimoine, puisque ça faisait déjà 2 ans avec à cause de la crise sanitaire que nous n'avons pas pu ouvrir. Là nous avons souhaité, en lien avec le thème de cette année, hein, pour les journées européennes du patrimoine, donc le thème c'est le patrimoine durable, nous avons souhaité montrer une des richesses de la Nièvre, hein, le bois. Alors le bois dans vraiment tous ces aspects, c'est-à-dire que le bois, la forêt, à la fois l'utilisation industrielle, hein, de la forêt et du bois, mais aussi la gestion administrative d'une forêt et de cette richesse, mais également comment la forêt finalement est aussi un lieu de vie, un lieu de loisirs pour les habitants de la Nièvre. Et donc voilà, c'est vraiment tous les aspects du bois que nous avons voulu évoquer au travers de différents documents, que ce soit des textes, des plans et des cartes postales. Nous avons beaucoup de documents sur ces sujets et en plus, ce sont des documents pour beaucoup qui ont été collectés très récemment auprès des administrations.
Et c'est d'autant plus d'actualité qu'en ce moment, les forêts connaissent certains incendies, donc c'est important aussi de la mettre en avant et de prévenir sur la richesse qu'elle a. Il y a une deuxième exposition aussi, ça s'appelle Spectral Summer, et alors c'est encore une fois aussi en visite libre, et ce qui est intéressant, c'est que l'artiste qui a fait cette expo s'est inspiré de l'architecture du bâtiment.
Oui, tout à fait. Donc c'est une exposition qui est ouverte déjà depuis le mois de juin et qui termine en fait ce week-end. Effectivement, c'est une exposition qui a été réalisée par une artiste qui s'est inspirée à la fois du bâtiment mais aussi des fonds d'archives. Et ça qui est aussi très intéressant. Donc d'avoir un peu ce lien entre le bâtiment, l'art contemporain et les fonds d'archives conservés. Et ça nous permet vraiment d'avoir un autre aspect aussi du monde des archives et une autre vision sur les archives et sur le bâtiment qui les conserve. Pour nous, ça avait vraiment un intérêt de montrer que avec les archives, on peut à la fois faire de la recherche historique, hein, assez classiquement, mais aussi avoir des réalisations un peu plus étonnantes et inviter un peu au voyage nos lecteurs et les personnes qui viennent nous voir.
Et justement, ce centre des archives départementales de la Nièvre que vous ferez visiter également au public, comment ça va se passer ces visites? Le but, c'est aussi de montrer l'envers du décor, le travail qu'il y a sur la conservation des archives aussi?
C'est ça. En fait, l'objectif, c'est vraiment de montrer nos missions, hein, de vraiment depuis la collecte jusqu'à la communication en salle de lecture ou bien la valorisation, en passant par le classement, la conservation, la restauration. C'est vraiment de montrer toutes nos missions autour de ces archives et de montrer, oui, exactement, l'envers du décor et d'inviter les visiteurs à venir nous rencontrer, à venir discuter avec nous. Et donc, on propose des visites guidées. Alors, c'est sur inscription. Vous pouvez retrouver sur notre site internet les différents moyens de nous joindre pour s'inscrire. Et donc, on propose des visites le samedi matin, le samedi après-midi, le dimanche matin et le dimanche après-midi. Voilà, et c'est des visites qui durent une heure et qui permettent vraiment de découvrir ce bâtiment et nos missions.
Et comment nos archives sont conservées dans
Tout
le temps.
Fait.
Merci. Merci Erwan Ramondek.
Merci.
C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite un bon week-end. Tout de suite le retour du son pop-rock. Et moi, je vous retrouve lundi à 13h. Bye.